vivant même. J'ai l'impression d'entrer dans un lieu un peu magique, mythique, que j'ai côtoyé sans jamais en voir la caméra. Bien. Voilà, et puis vous rencontrer est un plaisir. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la prolifération des images. Il faut que vous sachiez que c'est un thème qui m'a été demandé, c'est une commande. C'est pas forcément le sujet auquel je m'intéresse le jour, mais je m'y suis intéressée pour ces conférences de l'UTLS. Et en effet, ce terme de prolifération et de prolifération des images pose de grosses questions, pose ce problème. Et donc, pourquoi pas? C'est une expression que l'on entend volontiers à l'heure actuelle à propos des images. Nous sommes envahis d'images, il y a des images partout, les images prolifèrent, etc. etc. Bien, donc c'est là-dessus que nous allons réfléchir ensemble. En suivant, grosso modo, ce plan qui est affiché là, mais il y aura des exemples visuels aussi, il n'y aura pas que de l'écrit à vous offrir. Et, grosso modo, c'est un peu la ligne de conduite que je vais suivre. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de réfléchir aux deux termes, hein, image et prolifération. Vous connaissez cette méthode de travail, surtout justement en philosophie. Hein. Commençons par définir les termes. Qu'appelle-t-on image? Alors, il faut savoir que l'image, d'ailleurs je vous propose de faire un petit jeu chez vous ou avec vos amis. On ne parle que d'image, tout le monde parle d'image, tout le monde a l'air de comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'image. Mais si on demande à propos pour toi c'est quoi une image, on s'aperçoit qu'on est assez confus, on ne sait pas. On dit, qu'est-ce qu'une image? C'est quoi une image? Si je vous demande, c'est toute la question, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce qu'une image? Évidemment, on ne va pas jouer ce petit jeu maintenant, parce que ça durerait un petit peu trop longtemps, mais il s'avère que ce terme d'image est, comme on dit, polysémique, c'est-à-dire qu'il a toutes sortes de significations, et que dans nos esprits, ce terme s'associe à ceci ou cela. À nous de préciser, quand on y réfléchit, ce que c'est que pour nous une image. Mais déjà, on va faire un petit retour historique, un petit parcours historique, où nous allons voir que, selon les époques, le mot d'image n'a pas toujours eu la même signification. Le mot image, finalement, c'est un terme qu'on peut dire global, dont la signification a changé au fil du temps. Alors, par exemple, on peut aller à la... Mademoiselle, on peut aller à la première diapo. Il y a des problèmes un peu avec
la souris du marché.
Qui ne marche pas très bien.
Voilà.
Enfin, je peux déjà vous dire verbalement ce que j'ai à dire. Dans la préhistoire, il y avait ce que pour nous, nous appelons des images. Exemple. Voilà. Dans la préhistoire, il y avait ce que nous appelons des images. Nous appelons ces peintures rupestres, ces gravures rupestres que l'on peut trouver au Sahara, en France, en Espagne, en Australie, en Amérique latine, un peu partout dans le monde, nous appelons cela des images. Nous considérons que ça fait partie de la grande catégorie des images. Mais pour les hommes préhistoriques, est-ce qu'il s'agissait d'images au sens moderne du terme? Nous n'en savons véritablement rien. Et ce sont donc des mystères, en fait, sur lesquels on peut développer des hypothèses, des propositions, ce que tout le monde fait. On connaît justement ce qu'on appelle les pétroglyphes ou les pétrogrammes, c'est-à-dire les peintures rupestres ou bien les gravures rupestres dont le monde est rempli. Et il y en a eu certaines qu'on appelle encore de nos jours images qui ont même servi. Bon, ces peintures-là, on pensait qu'elles avaient des significations religieuses, magiques, enfin, vous avez entendu parler de ça. Il y en a qui servaient véritablement à la communication. Vous voyez la suivante? Alors, la suivante, c'est la dernière, en fait. Voilà. Alors, pas bonne, vous m'en excuserez. Il s'agit là en réalité d'une image, oui, qu'on a appelé, qu'un chercheur sur l'écriture a appelé les avant-courriers, elle fait partie de la catégorie qu'un chercheur qui travaillait sur l'écriture a appelé les avant-courriers de l'écriture. C'est une gravure que l'on a trouvée chez les Aztèques, n'est-ce pas, et qui signifiait que si on prenait tel sentier, c'était sur un rocher, eh bien une chèvre pouvait passer, mais un homme à cheval ne passerait pas, tomberait, se renverserait. Vous voyez que c'était trop à haute pour un homme à cheval. Donc vous voyez des images à fonction magique, des images à fonction religieuse, des images à fonction de communication. Bon. Dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans l'histoire, la préhistoire, on peut lire en même temps que les premiers textes de la philosophie occidentale, vous avez dû entendre parler, c'est-à-dire chez Platon, Socrate, Platon, Aristote, etc. On peut lire chez ces auteurs, qui sont les premiers textes de philosophie occidentale, de la culture, n'est-ce pas, des considérations sur les images. Alors, déjà, on voit une distinction chez ces philosophes entre les images naturelles et les images fabriquer de la main de l'homme. Les images naturelles, icone en grec, icône, qui a donné le mot icône que vous connaissez, par exemple chez Platon, l'icône, ce sont les reflets, les ombres, l'image dans le miroir, l'image dans la source. Vous connaissez tous le mythe de Narcisse qui s'est noyé d'amour pour lui-même, se contemplant la beauté de son visage dans la source. Donc ça, ce sont les images naturelles, reflets. Mais il y a aussi les images fabriquées de la main de l'homme. Et les images fabriquées de la main de l'homme, pour Platon, comme pour Aristote et d'autres ensuite, ce sont les peintures. Ce sont ce que nous appellerions les images figuratives, les images et les peintures qui représentent des objets ou des lieux ou des personnes que nous pouvons reconnaître. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dès cette époque-là, dès l'Antiquité, dès l'apparition de la philosophie occidentale de l'Antique, il y a, non seulement on parle des images, mais on les juge. Et on nous dit si elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Et ça, c'est très intéressant parce que on ne trouve pas le même type de jugement à propos du langage. On ne dit pas la langue. Si, on dit qu'une certaine utilisation de la langue est bonne ou mauvaise. Ça s'appelle la rhétorique. Mais pas les mots, pas le vocabulaire, pas les sons. Il n'y a pas de jugement de valeur aussi sévère que sur l'image. Alors pour Platon, pour donner un exemple, je vais aller un peu plus vite, pour Platon, l'image, elle est à bannière de la République, d'une société, puisqu'il a écrit un texte qui s'appelle La République, qui est une espèce de société idéale, qui serait gouvernée par les philosophes, etc. Donc, pas d'image dans la République. C'est pas utile. Pourquoi? Parce qu'une image, pour Platon, une image faite de la main de l'homme, c'est une imitation d'apparence. Vous avez peut-être entendu parler du mythe de la caverne, nous vivons dans un monde d'apparence, etc. Donc, c'est une apparence d'apparence. Donc, dit Platon, on est à 2 degrés de la vérité. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire un cours de philosophie, mais pour vous dire que d'emblée, on met l'image en relation avec la vérité. L'image, la vérité. Et c'est encore la question maintenant. On met l'image en relation avec la vérité. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est réel. On va croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai. Même l'histoire, je compte. Platon dit ça. En revanche, Aristote, qui était un peu plus moderne que Platon, un peu plus, lui, il trouve que c'est très bien les images, parce que justement, l'image imite, toujours la peinture, que l'enfant apprend en imitant, ça c'est l'argument d'Aristote, et que l'homme prend plaisir aux images. C'est-à-dire qu'Aristote, lui, qui est plus jeune que Platon, pas ils se sont connus, donc c'est une génération différente, Aristote, il dit que les images sont bonnes parce qu'elles nous aident à étudier, et elles nous aident à étudier avec plaisir. C'est-à-dire que là, l'image est mise en relation avec la connaissance. Qui sont des questions qui sont encore d'actualité. Si je vais un petit peu plus loin dans l'histoire, je peux parler de la guerre des images entre le 3e et le 7e siècle après Jésus-Christ, à Byzance, actuellement à Istanbul, hein, à l'époque de Constantinople, ça s'appelait Constantinople, sous l'empereur Constantin, il y a eu une guerre des images, c'est-à-dire qu'on a détruit les images, et c'est la fameuse époque iconoclaste de l'histoire de la religion chrétienne. Vous connaissez tous iconoclaste, un jour le capitaine Haddock, hein, favori du capitaine Haddock, ça veut dire les briseurs d'images. Quelles images est-ce que l'on détruisait entre le 3e et le 7e siècle à Byzance? C'était des images religieuses, c'était des icônes, c'était leur nom, qui représentaient le Christ, la Vierge, les saints, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on les détruisait? Parce que le divin, on ne devait pas nécessairement représenter le divin, parce qu'on risquait de confondre Dieu et sa représentation, donc de tomber dans le péché d'idolâtrie. Enfin, tout ça, ça peut être... Vous pourrez lire tout ça, c'est absolument passionnant. Finalement, la phase iconoclaste s'est résolue par un rétablissement de la vénération dans le dogme des images au bout de 4 siècles de bagarre. Bon. Mais il y a un iconoclasme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut détruire les images qui représentent des choses encore vivantes de nos jours. Bon, on connaît, il y a eu un iconoclasme protestant au moment de la réforme, mais il y a encore un iconoclasme contemporain chez les intégristes islamiques, par exemple. Vous savez qu'il y a eu des Bouddhas, des grandes statues au Pakistan, mais qui ont été détruites par les intégristes. Donc les images du troisième pôle auquel elles sont attachées, j'ai dit la vérité, après j'ai dit la connaissance, et maintenant le sacré. Et la troisième, quatrième catégorie, une grande catégorie à laquelle les images depuis qu'on en parle et qu'on en voit et qu'on réfléchit à leur usage, c'est la mort. Hein, les images sont aussi associées à la mort. Comment? Eh bien, par exemple, chez les latins, l'imago, qui est l'étymologie du mot image, hein, chez les latins de l'Antiquité, l'imago, c'était le masque mortuaire qu'on mettait, qui prenait l'empreinte du visage du mort et qu'ensuite on mettait dans l'entrée, sur l'autel des dieux là, des dieux familiaux qui protégeaient la maison. Eh bien, dans ce rapport à la mort, ces imagines, ces masques mortuaires, on pouvait les porter aux funérailles du mort, vous voyez, avec le mort. Eh bien, qui avait le droit de faire cela? Seulement les patriciens, pas les plébéiens. C'est-à-dire qu'il y avait une législation sociale élitiste permettant seulement aux aristocrates d'avoir le portrait de leurs ancêtres au funérailles et pas aux plébéiens, c'est-à-dire aux peuples. Donc vous voyez tous les enjeux, hein, qui sont énormes si vous en faites la liste, et là je ne fais vraiment qu'évoquer de façon un peu plus rapidement les choses, mais entre le sacré, la mort, la connaissance et la vérité, on comprend que la question des images reste de nos jours une question épineuse, critique. Voilà. Alors, de nos jours, donc oui, c'est ça, ce qu'il faut que je rappelle quand même avant d'aborder maintenant, c'est que donc pour toutes les époques donc, que j'ai évoquées, mais aussi pour toutes les époques qui ont suivi, le terme d'image renvoyait surtout à la peinture, à la sculpture, avec des grandes tendances et des fonctions et des impératifs religieux, politiques du moment. Hein. Donc il y a le Moyen-Âge, il y a la Renaissance, il y a l'art moderne, l'art contemporain, il y a les médias, il y a la télévision, il y a le net. On va voir tout cela. En fait, chaque époque a sa tradition et les choses vont bouger véritablement avec l'apparition de l'imprimerie, je vais vous en parler, puis la photographie, puis du cinéma, puis de la vidéo, puis du numérique. Grand cap, le changement c'est contemporain, c'est le numérique. Donc là, je vous fais un petit historique du terme qui privilégie, comme vous l'avez compris, la signification de représentation visuelle imitative. Le mot image peut vouloir dire plein d'autres choses. On peut parler d'image de marque. L'image de marque du président de la République, c'est quoi ça? L'image de marque des yaourts de trucs mûches, c'est quoi ça? On peut parler de donner une bonne ou une mauvaise image de soi, ou d'un lycée. Un lycée, est-ce qu'il y a une bonne image du lycée Jean Zay, est-ce qu'il y a une mauvaise image? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit des photographies du lycée? Non. On peut parler, on peut dire aussi qu'on peut parler par image. Par exemple, si on parle trop vite, ou ceci, on peut dire qu'on parle comme un perroquet. Si elle répète, c'est quoi ça? On parle par image. Donc vous voyez qu'il y a d'autres sens de l'image. Et il me semble, on va aller vite, hein, il me semble, que le point commun entre l'image de marque, parler en image, par image, bonne ou mauvaise image, etc., et image peinte et imitative, le point commun, ça serait plus que le visuel auquel on pense en priorité. Je ne pense pas me tromper en disant cela. C'est l'imitation, en effet. L'imitation, la copie, la ressemblance. Ce qui est commun à tous ces usages tellement différents, c'est l'idée de ressemblance. Si je dis cet enfant est le portrait de son père, on comprend très bien que l'enfant ressemble au père. Vous voyez, une image, ça ressemble. Alors ça ressemble en mots, ça ressemble en valeurs qu'on essaye d'associer, ça ressemble en peinture, ça ressemble en forme, ça ressemble en couleur. Une image, grosso modo, ça ressemble. Alors de nos jours, qu'en est-il? On assiste effectivement dans nos sociétés, sinon à une prolifération, on reviendra sur ce terme, tout au moins à une multiplication des images. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication des outils de transmission. Hein, multiplication, alors les images sur les chaînes télévisées, de télévision évidemment, dans les magazines, dans les photos de presse, sur le net, dans la télévision, les vidéos, les DVD, les CD-ROM, les jeux vidéo, les écrans d'ordinateur, enfin, les téléphones portables, évidemment, et ainsi de suite. Alors, il se trouve que cette multiplication des images est souvent présentée, ressentie, commentée, y compris par les médias d'ailleurs, comme une invasion, par les médias visuels, une invasion, voire comme une prolifération. Ces termes d'invasion et de prolifération sont des termes soit guerriers, c'est l'invasion, envahi, soit de maladie, la prolifération. Qu'est-ce qui prolifère? Qu'est-ce qui prolifère? Est-ce que ce sont les objets qui prolifèrent? Parce que les images dont je parle, ce sont des objets fabriqués. Est-ce que les objets prolifèrent? Est-ce que cette table prolifère? Non. Ce qui prolifère, c'est le vivant, n'est-ce pas? C'est le vivant, c'est la cellule, et ce sont des organismes qui prolifèrent. Et donc, implicitement, lorsqu'on parle de prolifération d'images, on compare les images visuelles, les médias dont j'ai parlé, au fond à des microbes, à des espèces de bestioles qu'on ne voit pas et sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et ce faisant, à des bestioles nuisibles. C'est ça l'implicite. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui. Pourquoi a-t-on peur des images? On continue d'avoir peur des images depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, il y a des défenseurs et des accusateurs des images. Alors, une des conséquences, une des raisons, on peut dire, de cette peur contemporaine, et comme vous voyez, elle n'est pas neuve, c'est que on considère toujours implicitement, et ça je vous conseille, hein, en tant qu'étudiant, travailler sur l'implicite, c'est absolument passionnant. L'implicite, c'est ce qui n'est pas dit, mais qui est sous-entendu et sous-compris. Je peux vous dire que quand on discute les uns avec les autres, on sait très bien tout ce qui se passe en dessous. Mais souvent, on évite de le formuler par précaution, par prudence, oui c'est ça, ou bien par peur, ou je ne sais quoi. Mais c'est très intéressant. Et l'implicite de cette crainte de l'image qui va nous envahir, voire nous contaminer comme la grippe, comme une maladie, c'est qu'on la compare au langage. Quand on dit qu'on va choisir une communication par l'image, c'est toujours parce qu'elle est plus ceci ou plus cela, elle est plus facile, plus agréable, plus commode et tout ce que l'on veut, ou alors elle est moins ceci, moins cela, etc. Le plus et le moins, ce sont des outils de comparaison. De comparaison avec quoi? Implicitement, en dessous, avec le mot, avec le langage, et on redoute que l'image, ça vous l'avez entendu dire aussi explicitement, je pense souvent, on redoute que l'image détruise le langage, provoque une perte du langage. Finalement, les images, c'est l'opposé du mot, ce qui est absolument fou, hein. Fou et archi-fou. Mais comme ça, dans les choses dites rapidement, c'est l'opposé du mot. Et si on regarde plus d'images qu'on ne lit, évidemment, et vous, les étudiants en particulier, si vous regardez des films, des Bambola au cinéma, au lieu de lire Marcel Proust, vous êtes en perdition. C'est-à-dire qu'on compare l'incomparable. Parce que c'est pas ça qu'il faut comparer. C'est pas Marcel Proust et un Bambola. C'est, je vais vous dire c'est quoi. Mais enfin, du coup, cette espèce d'implicite que l'image nuit au langage ou repousse le langage, ça va jusqu'à faire que l'on pense qu'on va perdre le langage, la jeunesse en particulier, on va perdre se faisant la pensée, ce qui n'est pas faux, si on perd le langage, on perd la pensée, et donc on va être, autre soupçon contemporain très vivant de l'image, on va être manipulé au lieu de réfléchir. Voilà, alors que la comparaison à faire, elle n'est pas entre l'image et le langage, il n'y a pas d'image sans langage. Vous regarderez vous-même, il n'y a pas d'image sans langage. Même comprendre une image, c'est déjà élaborer du langage dans sa tête. Comprendre, c'est le langage. Donc je vois et je comprends, je vois chèvre, je dis chèvre dans ma tête. Il n'y a pas d'image sans langage, il n'y a pas de compréhension sans langage, ça n'existe pas. Donc, même à propos des images, et moi j'ai travaillé pas mal d'années sur les images, je peux vous dire que même la compréhension d'un film, quand on espèce d'essayer de voir comment on suit un récit, comment on l'anticipe, comment on a emmagasiné tout un savoir visuel en soi qui fait qu'on réagit à ceci ou à cela, c'est très compliqué, c'est très élaboré, c'est certainement aussi élaboré que la lecture d'un livre, mais c'est pas la même chose, et donc on a souvent peur que l'un chasse l'autre. Ce qu'il faut comparer, pour être juste, c'est le facile et le difficile. Certainement, on va toujours au plus facile. Alors si je vous montre des images faciles et qu'à côté je vous propose une lecture difficile, c'est sûr que vous irez vers l'image facile. Mais si je vous propose des images faciles et à côté des images difficiles, pardon, et mettons une émission de Arte sur l'art et hyper contemporain, je ne sais où, et à côté une lecture facile, justement un bon polar ou bien une revue sur les motos, les trucs complètement à la mode ou qui vous intéresse, vous allez lire, vous n'allez pas regarder les images, vous voyez. Donc ce qu'il faut comparer, c'est le facile. Et la porte naturelle de l'humanité, c'est d'aller toujours au plus facile, toujours au plus facile. Et le plus facile n'est pas nécessairement le plus mauvais, parce que c'est grâce au plus facile que les technologies évoluent, c'est grâce au plus facile que le langage évolue. Si vous avez fait de la philologie, vous verrez comment les syllabes se sont contractées depuis le latin jusqu'au français moderne, etc. Les téléphones portables, rappelez-vous, vous êtes trop jeune, mais enfin, mes collègues le savent, si on compare ne serait-ce qu'il y a 10 ans, tous les gestes qu'il fallait faire pour utiliser un téléphone ici ou là, ou une voiture, comme maintenant c'est simplifié. Donc, le progrès va vers la facilité, utilise la facilité, cherche la facilité. Donc, c'est une erreur, à mon avis, que de penser que parce que regarder une image, c'est plus facile que lire un texte, c'est mauvais. Bon, est-ce que c'est plus facile de lire un texte? C'est pas mon sujet aujourd'hui. Ça dépend. Ça dépend quelles images, ça dépend de la taille des images. C'est sûr qu'un tas de postes comme ça, là, je vois d'un coup. On dit toujours l'image, on la voit d'un coup. Non? Pas du tout, je vais vous en montrer qu'on voit d'un coup d'œil. Donc il y a des images qu'on parcourt, il y a des images qu'on creuse, il y a des images qu'on feuillette. Il y a toutes les formes de lecture d'image. Bien. Alors, pour vous montrer encore autre chose, parce que je vais toujours un petit peu à contre-courant des lieux communs, parce que c'est un sujet qui m'y a amené. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'images qu'autrefois? Bon, il y a beaucoup d'images, oui. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'elles prolifèrent? C'est une autre question. Est-ce qu'il n'y avait pas d'images avant? Il y a des tas dans l'histoire visuelle où il y a énormément d'images, où il y a profusion d'images. Même dans l'Antiquité, s'il y en a certains d'entre vous qui sont allés ou qui projettent d'y aller, aller à Pompéi, vous verrez des villas complètement couvertes de fresques du sol au plafond, bien plus que dans nos modestes demeures contemporaines. Hein. Alors, on peut voir la diapo suivante. Voici un exemple d'image et de de multiplication, de profusion d'images anciennes. Allez-y, c'est la deuxième.
Oui, celle-ci.
Ah oui, alors les deux là, ces deux là, BTD, j'ai oublié de les faire passer. C'était pour dire que très souvent, quand on parle d'image, si vous dites c'est quoi une image pour vous, on va vous dire c'est la publicité. Donc en voilà une autre, plus agréable, pour une de garçon, voilà, les belles dames qui vantent les charmes des parfumiers là. Bon, très souvent, on va vous dire l'image, c'est la publicité. Bon, l'image, ça n'est pas la publicité. La publicité, c'est un contenu, c'est ce qu'on dit, mais l'image, c'est le moyen. Hein? Donc la publicité utilise souvent les images. Mais ça n'est pas synonyme. Il y a des publicités verbales, il y a des publicités écrites, il y a des publicités en images. Alors on passe au suivant. Voilà. Voilà, c'est un tout petit exemple de fresques qu'on trouve dans les églises orthodoxes en Grèce. Dans une petite, dans une ville près de Sparte, dont vous avez entendu parler dans vos études. Moi, je suis dans la petite ville, peu importe, où il y a plusieurs chapelles orthodoxes. Eh bien, vous rentrez dans une chapelle orthodoxe du Moyen Âge, en Grèce. Voilà. Là encore, les fresques, c'est peint sur les murs, sur les colonnes, sur les voûtes. Il n'y a pas un centimètre de libre. Hein? Bon, donc profusion, prolifération peut-être pas, mais profusion d'images. C'est la suivante, s'il vous plaît. Voilà, il y a un exemple très 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 connu qui est la chapelle Sixtine au Vatican, hein, où il y a l'histoire de la création du monde par Michel-Ange, la faute. Bon, vous voyez que c'est pas tout nu. Hein? Vous baladez dans le Vatican, il y a partout. Alors, voilà. Donc, on pourrait comme ça parcourir, et d'ailleurs sur Internet, vous pouvez le faire, des palais en Occident, en Orient, des églises, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'il y a une profusion d'images. Alors, ce qui caractérise ces images-là par rapport à nos images contemporaines, c'est qu'elles sont attachées physiquement au lieu où elles ont été peintes. Elles étaient attachées, parce que maintenant on peut en prendre des reflets et les trimballer, justement je vous montrerai ça tout à l'heure, avec soi, on peut les promener avec soi. Mais jusqu'à très longtemps, jusqu'à l'apparition justement de l'imprimerie, on s'aperçoit que ces images restent attachées au lieu où elles ont été fabriquées. Si on veut les voir, il faut aller dans ces lieux, dans ces palais, dans ces villas, dans ces églises, dans ces temples, tout ce que vous voulez. Alors, elles commencent à se diversifier, à se multiplier, les images, en fait, avec l'apparition de la peinture de Chevalet à la Renaissance. Vous voyez, à la Renaissance, avec l'apparition de la perspective et du cadre rectangulaire, vous avez sans doute vu cela en géométrie, les peintres, bon, Léonard de Vinci, pour ne pas le citer, Don Francesco, justement, c'était des fresques, mais enfin, Orthénia, et bien d'autres, peignent les toiles qui vont aller dans les palais ou dans les églises, vous voyez. Et alors ça, évidemment, provoque une sorte de multiplication des images. Donc vous avez la preuve dans les grands musées, par exemple français, si vous êtes déjà allé au Louvre, bon, vous voyez, il y a la Joconde, elle est au Louvre, les Léonard de Vinci sont au Louvre, il y en a au Louvre, il y en a à Londres, etc. Donc on voit que les images commencent à se multiplier avec l'apparition de la perspective et de la peinture de Chevalet. Et puis, je vous ai fait allusion tout à l'heure, évidemment, il y a l'apparition de l'imprimerie. Alors l'imprimerie, c'est en 1440, au 15e siècle. Pourquoi ? Parce que quand l'imprimerie arrive, eh bien les livres arrivent et on illustre les livres. Soit avec des gravures qui illustrent, par exemple, il y a des récits de voyage qui datent du 15e siècle, de 1492, avec des tampons qui représentent des villes, des lieux, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se développe à partir de l'imprimerie, et la gravure, c'est la reproduction de tableaux. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux, il y a un tableau peint en couleur, etc. Et on va le reproduire en gravure, et on va distribuer ces gravures, on va pouvoir les reproduire. Et puis, il y a aussi les jeux de cartes qui apparaissent avec l'imprimerie, les les images d'Épinal, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le 15e siècle. Donc, vous voyez, la Renaissance, c'est le 16e siècle, mais l'imprimerie, c'est à peu près le simultané. Et puis, il y a la photographie, évidemment, c'est une étape très très importante. La photographie en 1826, inventée par Nicéphore Liebs à Mâcon, je crois, donc qui va là franchir un cap capital pour moi. D'une part, parce que justement, la photographie va donner l'impression qu'elle reproduit le réel à la perfection, que c'est le réel même, que c'est le monde. Je prends une photo de cette classe, de cet amphi, bon, les gens ont l'impression de le voir même, n'est-ce pas? Alors, et en même temps, avec la photographie, on peut reproduire indéfiniment, comme avec la gravure, mais encore mieux, la même image. Voyez? Donc ça va poser, cette affaire-là, cette technique de la photographie, va poser un certain nombre de questions qui ont été étudiées par plus d'un, en particulier par un philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Benjamin, un philosophe allemand, qui a écrit une petite histoire de la photographie que je vous recommande de lire, ou bien un texte très très célèbre et très important qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique ». Alors, ce à quoi Benjamin réfléchit, ce n'est pas le problème de la reproduction, mais c'est celui de la reproduction technique, c'est-à-dire que une photographie, par exemple. Où est l'original? Quel est l'original? À partir du moment où je peux en faire 10 000 exemplaires, et ce que nous dit Bernard Benjamin, c'est qu'avec la photo, ce que nous connaissions comme l'œuvre d'art qu'on allait admirer comme la Joconde de Louvre, disparaît d'une certaine façon parce qu'on peut la reproduire indéfiniment. Je passe. Mais surtout, la photo comme trace, la photo comme preuve, ce qu'elle n'est pas. Vous savez qu'en juridiction, on ne peut pas utiliser des photos. C'est pas une preuve dans un procès. Même s'il y a les caméras de surveillance, je vais en parler, tout ça. C'est pas vraiment une preuve, c'est des indices, tout ce que vous voulez. Ça va alimenter une croyance à propos de l'image qui est son pouvoir de persuasion. Si je montre une image, une photo ou un film, c'est du vrai. Et confusion, vérité. Alors là, la relation avec la vérité, réalité, vérité, va se serrer. Et on va se servir des photos ou des films comme de choses, de discours vrais, véridiques. Et cette idée que la photo, le film sont authentiques, on va l'utiliser, du coup, ça va être utilisé, elle va être utilisée par les pouvoirs totalitaires. Et c'est comme ça que le cinéma, par exemple, le cinéma va être un art d'État dans les régimes totalitaires. Art d'État en URSS, instauré par Lénine, art d'État en Allemagne nazie, instauré par Goebbels, art d'État en France, instauré par les Allemands pendant l'occupation, c'est une autre CNC, création allemande pendant l'occupation, art d'État dans les colonies, par nous les Français, par exemple au Maroc, la CCM imite le CNC pour avoir. Vous savez, main mise sur la communication visuelle. Pourquoi? Parce que c'est grâce, on croit, les régimes totalitaires croient, que les images vont, avec leur caractère de force et d'authenticité, convaincre les spectateurs, changer leur mentalité, fabriquer leur nouveau, convaincre l'indigène que la colonisation est une bonne chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, après le cinéma et la télévision, le grand cap, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la numérisation. C'est la numérisation, c'est-à-dire que les images existantes vont être scannées, stockées, on va indéfiniment faire de nouvelles images, et surtout ces images vont pouvoir se diffuser et se transmettre à la plus grande vitesse. Alors je regarde, j'ai commencé à quelle heure? Excusez-moi.
35 minutes.
Combien?
35 minutes.
J'ai 35 minutes.
Il y a 35 minutes.
Il y a 35 minutes. Bon. Ça veut dire que j'ai jusqu'à...
quart d'heure.
J'ai encore un quart d'heure. Pas fini. Bon. Alors, on va aller vite. Bon. Alors, ce qui change, j'ai pas besoin de vous faire de dessin là-dessus, vous le savez, c'est les techniques nouvelles, de transmission des images, et leur volatilité, le fait que ça va absolument, on peut se les transmettre à toute allure, et que, donc il y a la vitesse, et c'est instantanément. Il y a une transmission contemporaine, instantanée, qui s'accélère et qui provoque une accumulation d'images, une profusion d'images, et c'est là qu'on peut se demander s'il y a véritablement du nouveau par rapport aux anciennes images. Si on met à part l'usage, c'est-à-dire la transmission de l'usage, et qu'on regarde le contenu des images, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence, bien sûr, on ne fait pas des photos avec son portable comme Léonard de Vinci à la journée. Bien sûr, il y a une différence. Mais toutes les images ne sont pas là, je ne comprends pas. Et ensuite, mais est-ce que ces images numérisées, nouvelles, que nous voyons, sont très différentes des anciennes? Non. Elles ne sont pas très différentes des anciennes. Pourquoi? Parce qu'elles ont hérité toute l'histoire de la composition visuelle que nous connaissons, de la peinture, etc. etc. Ce qu'on peut voir comme une grosse différence, si vous voulez, c'est qu'avec le numérique, on peut atteindre une certaine perfection des images, en effet. Il y a une infinité de couleurs, une infinité de nuances, etc., qu'il n'y avait pas avant, et on peut arriver à avoir des images parfaites. Mais, le contenu, la composition, le haut, le bas, les trois tiers, tout ce que vous avez pu apprendre dans vos cours d'art plastique demeure, absolument, même dans les instantanés. Le fait de centrer un motif, pourquoi est-ce qu'on centre un motif? Le fait de respecter la perspective, tous nos appareils respectent la perspective, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Pas du tout. L'art chinois, par exemple, va vous présenter des montagnes, et encore maintenant, l'art pas. Et puis au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'il y a derrière la montagne. Ce qu'il y a derrière la montagne. Donc c'est des histoires de culture et de représentation. On peut aussi voir quelque chose qui est peut-être nouveau, j'en suis pas sûre, pour le contenu, avec les images, moi je dis que ça va changer énormément. Il y a cette perfection possible, et d'ailleurs plus c'est parfait, plus on s'émerveille parce qu'on trouve que c'est réaliste, notion éminemment culturelle, et il y a aussi ce qu'on appelle les images sales. Il y a tout un trafic, on le sait, d'images, des slap movies, etc., où on filme des tortures, quelquefois des mises à mort ou des agressions, et puis on se les fait passer. Bon, ça, c'est assez sale, et c'est obscène mentalement et c'est obscène physiquement. Mais il y a aussi les images que j'appelle sales, c'est-à-dire justement pas parfaites, avec du grain, avec du flou. Et ça circule beaucoup. À titre d'image volée, de vraie image. Et avec ce type d'image que j'appelle des images sales, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de frontières qui sont franchies entre le privé et le public, en particulier dans les médias. Il y a les images volées des catastrophes, des paparazzi, des people et tout ce que l'on veut. Et hop, ça a été pris par monsieur machin ou madame truc, mais ces personnes les envoient aux médias qui les remettent dans un circuit public. Donc, vous voyez, le privé public, un certain nombre de frontières entre les deux domaines sont franchies avec cette notion de saleté des images sales. Alors, donc, vous voyez, c'est pas le contenu vraiment des images qui change. Alors, à mon avis, ce qui change peut-être, évidemment, et même sûrement, ce sont les usages et les fonctions. Alors, comment faire pour observer ce qui est important dans les usages et les fonctions? Alors, pour cela, moi, je m'inspire de quelqu'un qui a été très important pour ma génération, qui est Roland Barthes. Vous en avez peut-être entendu parler, vous êtes déjà dans l'étudiant. C'est un chercheur qui avait essayé de réfléchir sur la différence justement entre peinture et photo. Alors au début, il part et il dit, bon, alors les peintures, il y a plutôt, c'est plutôt des portraits, c'est plutôt des lieux, c'est plutôt des objets, c'est plutôt ci, c'est plutôt là, la photo, c'est plus le quotidien, machin. Bon. Et il s'est aperçu que ce n'était pas possible de distinguer photo et peinture par le contenu, justement, mais par les usages et les fonctions. Par les usages et les fonctions. Il en distingue trois que je vous offre parce que c'est quelque chose à laquelle on peut réfléchir constamment. On peut regarder. Il y a trois usages des images, finalement. Des photos, mais aussi des images en général. C'est prendre ou faire, regarder ou contempler, et être pris lorsqu'il s'agit de films ou de vidéos. Hein. Prendre, faire, regarder, être pris. Alors là, si on regarde ces usages-là en pensant aux images contemporaines numériques et à leur diffusion par les portables, Internet et tout ce que vous voulez, les ordinateurs, les jeux, on s'aperçoit qu'il y a une différence. Alors il y a une différence dans le prendre. Bon, dans le prendre, là encore, prendre, on peut affiner un petit peu l'approche en disant prendre pour les particuliers, vous, moi, pour les professionnels et pour les institutions. Et là, on voit des différences. Pour le particulier, bon, on prend les photos, pourquoi ? On prend les photos, on fait des photos pour partager l'expérience en fait. Quelqu'un dit une image est toujours pour autrui. On fait toujours une image pour quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un d'autre et soi. Donc il y a des partages, des témoignages lorsqu'on voyage, j'ai vu ci, j'ai vu là, je suis passé ici, je suis passé là. Ça c'est pour les personnes. Les professionnels, quel est le mobile, pourquoi est-ce qu'on prennent des photos, des films, ou pourquoi est-ce qu'ils en fabriquent, soit de façon numérique, soit en réunion, bon, c'est à viser essentiellement commercial, hein, c'est pour gagner de l'argent, donc je passe, et enfin les professionnels, et les institutions, et on s'aperçoit que, en effet, les institutions prennent de plus en plus d'images, de tout. Et on peut penser aux caméras de surveillance. Hein. On peut penser aux caméras de surveillance dans les transports en commun, dans les lieux publics, etc., etc. Qui font que, de façon. Il y a un réel changement dans notre société qui, tout d'un coup, par certains aspects et par le biais de l'image, devient, se transforme, comme le disait le philosophe Michel Foucault, dont vous avez peut-être entendu parler, une société de surveillance. Parce qu'on s'imagine, ça c'est encore une histoire d'imagination, on s'imagine que si on voit tout, on sait tout. Cette idée que si on voit, on sait, ça s'appelle le fantasme, le rêve, du panoptisme, du tout voir. Et vous voyez qu'on est là-dedans, en plein en ce moment. Les commentaires de l'environnement sur comment faire pour que les jeunes sachent que les trop que les acquisitions que ci, que là, voyons. Caméra. C'est à ce moment-là, c'est tellement pas malin de faire un hold-up et puis de se mettre le burqa et c'est bon. Mais ce que je trouve quand même très impressionnant, des images de nous, de vous, de moi, de tous circulent maintenant. Vous voyez, le être pris dans la classification de Marx, le être pris, lui, quand il en parlait, il disait, ah, quand on prend photo, je ne sais pas quelle image de moi je vais donner, je ne sais pas comment je vais me poser, etc., parce que je vais donner une bonne manière. Et maintenant, il y a deux conséquences à cette histoire institutionnelle de prise de vue, c'est que nous sommes pris dans de nombreux endroits sans le savoir, et de nombreuses images de nous circulent dans les mondes. Je dis que c'est comme un petit, comme des petits fantômes autour de nous, vous voyez. Il y a un organisme américain qui s'appelle la NSA, vous connaissez ça, la NSA, National Security Agency, NSA, qui enregistre toutes les conversations téléphoniques mondiales pour détecter les trucs de terroristes qui ne détectent pas d'ailleurs, parce qu'il y en a trop. Eh bien, de la même manière, il y a des images maintenant de nous tous qui circulent à notre insu partout. Et parallèlement à cela, bien sûr, se développe toute une législation du droit à l'image, du droit de l'image. On peut utiliser ou pas légalement l'image de vous, de moi, etc. Mais aussi le droit à l'image, c'est est-ce que je peux opposer mon droit à l'utilisation. Mais en fait, moi, j'ai récemment à Londres où il y a. C'est à deux toits de caméra dans tout le monde. Je Je sais que j'ai été filmée toutes mes années et venues. Moi, ça m'horripile de pile. Je pourrais exiger qu'on donne... D'ailleurs, tout le monde pourrait exiger ça pendant un certain temps, qu'on nous donne les images de nous-mêmes. Si tout le monde le faisait à la fois, ça serait un sacré bazar. Ça serait pas bon. Mais c'est exaspérant de se dire qu'on est filmé, on va à telle boutique, tel machin, tel truc. On n'a rien demandé à personne. On est gentil à ça. Voyez. Donc, nos fantômes, désormais visuels, nous accompagnent. Donc, vitesse, volatilité... Il y a aussi tout un problème, évidemment, dans cette affaire-là de modification du temps, puisqu'on peut se brancher, vous l'avez vu d'ailleurs, avec malheureusement le séisme de Haïti, et puis maintenant du Chili, etc., etc. On s'aperçoit qu'on est en constante ubiquité. Le temps, on est dans un temps mondial, où on est en correspondance constante avec tout ce qui se passe sur toute la planète, et par opposition, malgré tout, à un temps local, qui est celui de nos jours, et de nos nuits. Bon, donc je vais accélérer pour essayer de comprendre mieux la peur de l'image incluse dans le terme de prolifération. Alors, j'avais fait à l'époque un travail sur la notion virtuelle et ce qui en était dit dans les journaux, vous savez, mais vous étiez peut-être un peu jeune. Dans les années 90, sont apparues ce qu'on a appelé les images virtuelles, les jeux virtuels, etc. etc. Et là, dans les journaux, on pouvait lire une grande crainte de la part des journalistes et soi-disant de la population, qui était que les jeunes, toujours, vous, hein, c'est vous qui êtes visé par les images, vous, plus que tout le monde, sachez-le. Parce que les images sont puissantes, elles manipulent, elles vont vous faire du mal, et pas du bien. Voilà ce qu'ils sont. Et donc, la peur, c'était que les jeunes, qui jouent trop aux jeux vidéo, qui jouent trop aux jeux virtuels, etc., vont confondre la réalité et la fiction. J'ai entendu dire ça. Bon, alors, dire cela, bon, bien sûr qu'il y a des gens qui sont tout le temps sur leur ordinateur, et tout le temps sur leur écran, et tout le temps sur leur DS. Ça existe, mais d'abord, pas tout le monde. C'est des tempéraments fragiles, probablement addictifs, qui ont, ce ne serait pas la DS, ça serait autre chose, mais la plupart des gens, comme le disait Umberto Eco à propos des paysans du Moyen-Âge, grand penseur italien, il disait, comme paysan le plus obtus du Moyen-Âge, on a cru que l'agneau de Dieu était le Christ même. Il savait distinguer l'agneau, comme une image métaphorique, et la personne du Christ. Bien. Donc, cette peur, c'est une peur de déréalisation. Peur de... Qu'est-ce qu'elle, là encore, l'implicite, qu'est-ce qu'elle signifie cette peur? Que les jeunes se tournent la tête avec trop de virtuel, confondent le réel et la fiction. C'est comme si on disait d'une certaine façon à un petit garçon qui est sur le paillasson et qui dit je suis sur mon bateau, ah non, c'est pas un bateau, c'est un paillasson, attention. Évidemment, on a besoin de notre imaginaire, et notre imaginaire tout petit est très utile. Moi, je me suis beaucoup bagarrée dans les écoles maternelles en disant, mais laissez-les rêver. Il faut qu'un bâton soit un cheval, il faut qu'un paillasson soit un bâton. C'est comme ça qu'on a profité, qu'on a le troisième monde. Voilà. Donc, je pense que les images virtuelles ne sont pas un danger. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a la peur d'une perte. On a peur de perdre la concrétude du monde. Vous voyez, on a peur qu'on se noie dans du... dans de l'immatériel et qu'on perde l'esthésie, c'est-à-dire la perception du monde vrai. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, oui, il y a perte avec l'évolution des images maintenant. Il y a perte, oui, on perd quelque chose, mais ce n'est pas le monde qu'on perd. C'est, d'une certaine façon, je vais peut-être vous choquer en disant ça, ce sont les images elles-mêmes. Parce que les images, j'aime bien montrer ça, les images... Alors, elle est là-bas, je ressemble. Les images, je peux avoir toutes les images du monde comme ça, dans une clé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je vais enfermer le Vatican, le Louvre, la Pompée, etc. Toutes les images, je peux les enfermer dans un petit. Et là, il y a une perte. Il y a une perte, en effet, des supports. Et ça, c'est très extraordinaire. Il y a une perte du support. De l'image. Je vous ai dit qu'avant la Renaissance, et elles étaient accrochées, attachées au lieu, eh bien ça, c'est en effet une perte. Mais enfin, bon, c'est pas grave, et ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et la deuxième peur, plus contemporaine, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je vais vous montrer deux exemples tout de suite. La deuxième peur plus contemporaine, vraiment la peur de la perte de la concrétude du monde, ça c'était les années 90. Maintenant, c'est la peur de la communication, c'est ça. On a peur que les jeunes, les enfants, etc. soient dépendants, voilà, dépendants des images, des écrans, etc. Et donc, sous-entendu encore une fois, ça veut dire qu'on considère l'image, toutes ces images qui circulent et en nombre, et de façon innombrable, c'est vrai, comme des microbes et comme des poisons, comme du poison, comme une drogue. Et bon, alors là encore, il ne faut pas exagérer, les images, c'est pas de la drogue. Moi, je voudrais bien voir la prolifération des images. Est-ce qu'il y a plus d'images ici, dans cette pièce, que d'objets concrets du monde? Évidemment, non. Il y a cette reproduction, point. Puis il y a nous tous. Vous voyez? Donc, quand il y aura plus d'images que de choses concrètes autour de moi, je pense qu'on pourra parler de réel. On n'y est pas. On n'y est pas. Donc, ce qui se passe tout de même, de très important, c'est qu'avec cette possibilité d'accès tellement simple, tellement facile maintenant avec les iPhones en plus, bon, on se promène avec Internet, bon, se promenant avec Internet, on peut aller regarder tout ce qu'on veut, y compris des films, y compris des émissions de télévision, etc. C'est que ce qui nous menace, c'est pas de devenir drogué d'images, c'est pas de confondre le réel et l'air. Non, je ne pense pas. Mais en revanche, c'est de ne plus les regarder, les images. Parce qu'il y en a tant. Il y en a tellement. Donc, de transformer cette multiplication, cette profusion d'images en une sorte de défilement, en une sorte de scintillement, d'éblouissement, où finalement, on ne verrait plus grand-chose. Alors, et puis, dans un stockage aussi mental. Et moi, ce que je pense, c'est que finalement, on passe du statut du double, vous voyez, les iconoclastes de Byzance, les empereurs de Byzance, qui ont interdit les images, ils avaient interdit en particulier parce que sur les monnaies, il y avait leur portrait, et ils avaient l'impression que c'était eux-mêmes qui étaient démultipliés, ça les rendait fous. Vous voyez ? Donc, c'est l'idée du double qui inquiétait les gens. Et bien maintenant, je pense qu'on est passé à quelque chose de beaucoup plus banal, c'est-à-dire du double au duplicata. Voilà. Alors, on peut faire défiler, on peut faire scintiller. Donc, on peut, à mon avis, combattre cela de temps en temps, en s'arrêtant sur les images, en les regardant réellement, avec des outils d'analyse et puis des outils historiques aussi. Donc, on va voir deux exemples et je terminerai là-dessus. Non, avant. Voilà. Alors, ça. Vous voyez, cette affiche-là, on peut l'analyser, on peut la faire défiler, puis c'est tout. Bon, je l'ai vu, je l'ai oublié aussitôt que je l'ai vu. Mais on peut s'y arrêter un petit peu. Il s'agit d'une affiche qui a été, quand on la regarde comme ça, on peut faire une analyse juste purement visuelle, puis regarder le visuel et le verbal, et enfin le texte. Hein? Donc, purement visuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez, un contre-jour qui évoque l'extrême chaleur de l'été, les moissons, un ciel très bleu, des chaumes très, très dorées, des silhouettes très sveltes, des gestes faciles, sourire, travail heureux. Belle jeunesse au champ, dont on peut penser qu'elle représente la réussite d'une société et de sa jeunesse, pas abrutie devant les écrans de télévision. Maintenant, si on regarde le verbal, on s'aperçoit que cette affiche, elle a été imprimée à Paris en août 1942. Ça vous dit quelque chose, ça? Août 1942, en pleine occupation, en pleine guerre. Et que sur ce qui est écrit sur cette affiche, il y a le mot national plusieurs fois. Il y a national, récolte nationale, jeunesse nationale, je ne sais pas quoi, emprunt national, etc. C'est-à-dire qu'il y a une notion de nation là, qui est très importante et qui est contemporaine, vous le savez peut-être, même sûrement, puisque vous avez étudié cette époque d'histoire, de la révolution nationale et l'état de Chine. Et donc on s'aperçoit que le mot récolte Là, c'est une image qui est une métaphore, hein, qui est une image d'autre chose. Le mot récolte, il ne s'agit pas d'inciter la jeunesse à aller au champ, mais à donner de l'argent. Et la récolte, c'est la récolte d'argent, et non pas de blé ou de choses comme ça. Bien. Maintenant, si on regarde un petit peu plus le contenu, voilà. Donc là, vous vous apercevez, mais visuel et verbal, que c'est une affiche de la guerre où on essaye de soutirer de l'argent à la jeunesse pour en se battre. Et alors, on veut faire croire que c'est comme si on allait allègrement travailler dans les champs. Bon. Et puis si on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en août 42, qu'est-ce qui s'est passé en juillet 42, on en parle beaucoup en ce moment, le 13 juillet 42, à Paris, hein, 15 jours avant qu'on sorte cette affiche-là, c'est la rafle de Bellini. Bon. Et si on commence à creuser un petit peu du point de vue du contexte historique de cette affiche, on s'aperçoit que l'été 42, finalement, c'est un des étés les pires de la guerre, vous voyez, parce qu'on incite, la jeunesse à jouer, etc. On est donc à quelques jours de la rafle du Veldiv. C'est le début des déportations les plus inhumaines de la guerre qui vont durer jusqu'en 44, et on ne peut pas dire que le gouvernement de Vichy s'y soit véritablement opposé. La révolution nationale est en place. La corporation parisienne paysanne organise une hiérarchie idéologique pour éviter la lutte des classes, etc., ou la concurrence. L'été 42, je vous dis encore, c'est l'été où il y a des opérations de police en France qui sont confiées aux SS et non plus à l'armée allemande. On est à 2 mois d'occupation de la zone libre. C'est le moment où, et alors c'est là qu'on utilise tous les symboles, vous voyez, l'ordre est policier, traditionnaliste, il y a l'église, le paysan, l'artisan, le patriote, c'est d'avaler les valeurs de Vichy. Et puis c'est l'époque aussi où sont créées les fameuses sections spéciales, hein, qui sont des cours martiales exceptionnelles, qui exécutent les gens qui dérangent, surtout quand ils ne sont pas non seulement juifs, bien sûr, mais surtout quand ils sont, par exemple, communistes. Oui. Donc voilà une affiche qui est quand même radieuse. Et quand on étudie un tout petit peu, voilà ce qu'on peut faire avec les images, on comprend, un, c'est que la propagande, et deux, à quel point elle est cynique. C'est du cynisme absolu, vous voyez, qu'on essaye de faire avaler aux spectateurs. Voilà. Ça, c'est un exemple de façon de regarder les images. Vous voyez, ça nous a pas pris très longtemps, mais je pense que quand on réfléchit de cette manière-là, on s'enrichit, c'est ça. Les images, on les voit, il y a avant qu'on l'ait vu et après qu'on l'ait vu. Et de même qu'il y a avant qu'on ait lu un livre, après qu'on ait lu un livre, avant qu'on ait fait un voyage, après qu'on ait fait un voyage, avant qu'on ait étudié ceci, après qu'on ait étudié cela, on se constitue. Donc les images très abondantes, elles peuvent nous aider à nous constituer. Et il faut prendre du temps. Voilà. Et dernier exemple. Alors là, il s'agit d'un tableau, justement, d'un tableau donc, qui d'ailleurs n'est pas le seul, d'un peintre, non, le seul sur ce thème, d'un peintre qui s'appelle le Caravage, dont vous avez peut-être entendu parler. Ce tableau-là est à Londres, à la National Gallery de Londres. Il y a des Caravages à Paris. Bon, alors le Caravage, c'est un peintre extrêmement intéressant du XVIIe siècle, fin XVIe et du XVIIe siècle, en Italie, que pour ma part j'aime beaucoup, parce que du point de vue pictural, d'abord c'est celui avec Rembrandt, mais c'est quand même lui qui a inventé ce qu'on appelle le clair-obscur, le chiaroscuro, c'est-à-dire des tableaux où il y a de la lumière et de l'ombre. Donc dans l'ombre, on va aller chercher ce qu'on va dans la lumière, ça. Alors qu'avant, les tableaux, ils sont bien lisibles, et tout est net, tout est bien éclairé. Avec Caravage, l'ombre arrive avec la lumière. Et puis aussi, si vous vous intéressez à lui, allez sur Internet, c'est très facile. Vous verrez qu'il a une vie incroyable. C'est un peu le vilain de la peinture. C'est un mauvais garçon. Il a probablement tué un de petits camarades lors de Rix et dans des bagarres. Il a été sauvé par le pape qui voulait lui faire peindre une peinture officielle parce qu'il avait un talent absolument fou, ce Caravage. Et voilà un tableau de commande qu'on lui a fait. Il fallait peindre cette scène. Cette scène, c'est le repas d'Emmaüs, pour ceux qui connaissent la religion chrétienne. Le repas d'Emmaüs. Emmaüs est un lieu en Palestine, où après la mort du Christ, il serait réapparu à ses disciples, ressuscité. C'est la, pour les chrétiens, c'est le repas d'Emmaüs, c'est le moment qui prouve que le Christ est ressuscité. Alors cette histoire, c'est que les disciples vont dans une auberge manger avec un passant, quelqu'un comme ça, partage le pain, et au moment où cette personne, qui ne connaissait pas, rompt le pain, ils ont la révélation que c'est le Christ qu'ils avaient enterré deux jours ou trois jours avant et qui est à nouveau vivant. Il est très important pour la religion chrétienne, catholique, la vie après la mort. Ça, c'est un problème sur lequel nous ne parlerons pas aujourd'hui. On vit après la mort dans cette idéologie de la mort, cette religion-là. Donc voilà, ce repas d'Emmaüs, capital, c'est une scène de l'histoire sainte, comme on l'appelle, des chrétiens. Alors, le Caravage, qu'est-ce qu'il nous montre? Je vous ai dit que c'était le peintre de l'ombre et de la lumière. Alors, on n'y voit pas très très bien, malheureusement, sur cette reproduction, mais en partant d'une ombre tout à fait incongrue, vous allez voir qu'on peut développer, mieux comprendre le discours que nous propose ce tableau. Est-ce que ce tableau représente tout simplement le repas d'Emmaüs, et voilà, le Christ est ressuscité? Alléluia. Ou est-ce qu'il y a des choses un peu curieuses dans ce tableau? Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre ou non? Non. Alors je vous propose de regarder les ombres, et de regarder en particulier l'ombre du petit panier de fruits qui est devant la table, qui est en avant. Regardez, il y a une ombre là, vous voyez, celle-ci là. Est-ce que c'est normal que je, puisqu'il s'agit de peinture quand même assez réaliste, est-ce que c'est normal que je vois l'ombre du panier qui est posé sur la table? Non, je vois l'ombre du panier posé sur la table seulement parce qu'il est posé comme ça. Vous êtes d'accord? Il est posé sur le bord. Donc je vois son ombre sur le rebord de la table. Vous voyez? Et du coup, quand on aperçoit ça, bon là, la production est pas bonne, mais enfin, quand on voit le tableau en réalité, et qu'on voit ce petit panier, on se dit, mais bon sang, il va tomber, le petit panier. Il n'est pas en équilibre, il y a un doute. Alors, le regard s'éveille, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que nous fait un panier déséquilibré comme ça? Et on regarde les autres motifs, et on s'aperçoit par exemple que le vieillard à droite, peut-être Pierre ou sa fère, c'est possible, a les bras étendus comme ça, et que la main. Et on regarde les deux mains et on constate quelque chose encore une fois. La main qui est en avant, c'est un tableau en perspective en principe. Donc ce qui est grand, c'est ce qui est près, et ce qui est petit, c'est ce qui est loin. Donc la main de devant et la main de derrière, qu'est-ce qu'elles ont? Oui, la main arrière est plus grande que la main avant. Donc on a l'impression qu'il y a, si vous raisonnez, formuler ce que nous voyons, il y a un renversement de perspective. Vous savez ce que ça veut dire, un renversement de perspective? Bien. Ensuite, derrière le personnage qui rompt le pain et qui est censé être le Christ ressuscité, dans les peintures religieuses, lorsqu'il y a le Christ qui est représenté, en général, il y a en effet une zone derrière lui, mais en général, elle est plutôt lumineuse, voire une auréole carrément. C'est de la lumière. Or, derrière lui, là, il y a de l'ombre. Donc, ce n'est pas nécessairement un saint, le Christ lui-même, etc. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Et vous voyez, sur cette scène du dôme, qui demande aux fidèles chrétiens de croire que le Christ est ressuscité, que les disciples l'ont vu, de leurs yeux vus à Emmaüs, eh bien, Caravage nous propose un discours visuel, il nous propose quelque chose qui est de l'ordre du doute. Tombera, tombera pas. Perspective, il est ressuscité, on vit après la mort. C'est peut-être renversé, c'est peut-être pas ça. De l'ombre derrière le personnage, c'est peut-être le Christ, c'est peut-être pas le Christ, etc. Donc voilà un discours visuel qui met en place, avec l'ombre et la lumière, le questionnement, le doute. Et nous le propose. Donc là, évidemment, il faut être un petit peu plus attentif pour comprendre ce genre de peinture, en tout cas, c'est quand même. Mais pour finir sur cette idée de prolifération, vous comprendrez que moi, j'abandonnerai ce terme en parlant de profusion, et plutôt, je préfère le terme de profusion, et ce que je vous propose, ce que je nous propose, c'est que notre perception des images ne se borne pas à un pur défilement un peu soporifique, mais s'accompagne de paroles et se faisant de réflexions.